Chers frères et sœurs, nous recevons la grâce, la paix et la joie dans notre vie, dans notre cœur, au cœur même de notre existence, de la part de l'Éternel. Nous sommes ici heureux de pouvoir entourer ce matin Violette Fortune et Adélaïde d'Artigues-Perrou, de pouvoir les accueillir avec leur famille, avec leurs proches. Nous sommes heureux ce matin de pouvoir faire famille tous ensemble, quelle que soit notre origine, quel que soit le chemin qui nous a conduits jusque-là, quels que soient les efforts qui nous ont portés jusqu'en ce lieu de culte. Nous répondons ainsi à une invitation qui nous est faite. Ce n'est pas nécessairement selon notre propre désir que nous sommes là, mais nous sommes là à l'invitation de famille, nous sommes là à l'invitation de Dieu pour ceux qui fréquentent cette paroisse. Nous sommes là en réponse à un désir, le désir de vivre un peu plus que notre quotidien, le désir de comprendre un peu plus que ce que nos yeux, que ce que nos sens nous permettent de comprendre. Nous sommes là pour ce petit plus spirituel qui donne à notre vie l'éclat même de ce que nous pouvons appeler l'existence. Et c'est une existence que nous plaçons donc devant Dieu à travers le chant que nous avons dans notre recueil liturgique au début du psautier français, dans ce petit livret jaune. Je vous invite à chanter le premier spontané. Nous louons Dieu par nos mots. Mais nous le louons également par tout notre corps, par nos gestes, par les chemins que nous empruntons. Oui, nos lèvres bénissent Dieu à travers leurs chants, mais nos yeux également le célèbrent en reflétant sa lumière. Nos oreilles lui répondent en écoutant sa voix. Notre mémoire lui rend grâce en rappelant ses délivrances. Notre intelligence le loue. Elle le loue en cherchant la voie de sa sagesse. Notre volonté l'honore lorsque nous nous faisons serviteurs de son espérance. Notre cœur loue Dieu en aimant de son amour. Notre corps demeure de son esprit, le loue sans cesse. Oui, que tout en nous rende gloire à Dieu. Amen. Et cette gloire, nous pouvons la chanter au psaume 92. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 qui nous permettront de célébrer Dieu, de lui rendre grâce. prenons place. Cette huile fraîche versée sur le front de l'enfant peut évoquer l'eau du baptême, cette eau du baptême encore de nos jours le signe de cette entrée dans l'alliance avec Dieu, en raison de ces derniers versets que l'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, lorsque Jésus, au moment de quitter ses disciples, s'approche d'eux et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, méditons ces paroles de l'Évangile avec le répond indiqué dans notre livret liturgique. Nous nous recueillons dans la prière. Dieu notre Père, un jour, nous avons peut-être été baptisés. Pardonne-nous de l'oublier. Nous avons été baptisés en ton nom de Père, mais pouvons-nous dire que nous aimons vraiment de tout notre cœur ? Savons-nous dire et montrer que nous sommes vraiment tes enfants ? Bien souvent, nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls. De fait, nous avons été baptisés au nom de ton Fils, celui qui nous appelle au service, à l'amour du prochain, mais aimons-nous vraiment notre prochain, celui qui s'approche de nous ? Ne cherchons-nous pas souvent notre propre intérêt au lieu de servir ? Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit. Mais quels fruits avons-nous portés ? Nous t'en prions, Père. Accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Ainsi parle l'Éternel, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit et vous serez mes fils, mes filles. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ainsi, frères et sœurs, que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Et c'est ainsi qu'il nous donne de marcher ensemble avec enthousiasme vers ce royaume proclamé. Alors chantons-lui notre reconnaissance. Frères et sœurs, au cœur de notre foi, il y a donc cette invitation, ce commandement à l'amour. Et pour exprimer notre foi, nous allons entendre le développement que l'apôtre Paul fait de cet amour avec Lise, marraine d'Adélaïde.
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.
Nous rendons grâce à Dieu avec notre chant. C'est dans cet esprit d'amour que nous accueillons aujourd'hui Violette et Adélaïde qui vivent actuellement une sorte de face-à-face. C'est ce qui nous permet aussi de reconsidérer ce que signifie la tension. La tension, ce n'est pas forcément destructeur. La tension, c'est ce qui est nécessaire pour qu'une tente tienne debout. Il faut de la tension entre la sardine et le double toit. Et bien là, il y a une tension créatrice, fondatrice. Ce que nous pourrions dire, c'est que dans ce face-à-face, dans ce regard échangé, eh bien, chacun existe pour l'autre. Et c'est un peu le sens du baptême, c'est même en fait beaucoup le sens du baptême. Exister parce que nous sommes quelqu'un dans le regard de Dieu, dans le regard de l'autre, dans le regard de cette communauté qui aujourd'hui est pour nous un visage divin. Le baptême dit donc l'entrée dans cette forme d'alliance. C'est une alliance qui nous précède, qui vient de loin. Une alliance conclue dès les origines, une alliance qui n'attend pas la bonne volonté des uns ou des autres pour s'exprimer. C'est une alliance qui nous est offerte par grâce seule. Cette alliance, Jésus-Christ l'a manifestée de la façon peut-être la plus pertinente, mais la plus accomplie qui soit, bien que je pense en fait à inaccomplie, car elle est toujours encore à reprendre. Parce qu'il a développé à travers la thématique du don et du pardon, à quel point cette alliance est un cadre qui nous permet de vivre et de surmonter les épreuves de la vie, et de donner à notre vie une couleur autrement plus éclatante que ce que nous serions capables de produire par nous-mêmes. Le baptême, surtout lorsqu'il s'adresse à des petits-enfants, même pour Violette qui commence à pouvoir s'exprimer sérieusement, est toujours une initiative que les enfants reçoivent. Ils sont un peu baptisés malgré eux, finalement. Et cela n'est pas un acte de tyrannie ou de dictature, mais le signe même qu'on prend soin de vous, qu'on prend soin de vous dès votre plus jeune âge, car dès à présent, vous avez une vraie richesse en vous. Et c'est une richesse dont il faut prendre soin. Vous avez reçu un nom, un prénom, gratuitement, sans mérite particulier. Eh bien, c'est de la même manière que vous recevez ce matin ce baptême. C'est une façon de dire que de l'amour sera toujours disponible pour vous, que vous le méritiez ou non, que vous l'espériez ou non. Il y aura toujours des points d'accroche dans l'existence qui vous permettront de vous construire et d'aller de l'avant. Nous espérons bien sûr que plus tard, quand vous serez adultes comme ceux qui vous entourent, vous répondrez à cet amour, que vous deviendrez acteurs de ce que nous appelons la vie spirituelle, de la foi chrétienne. Pour l'heure, nous vous accompagnons sur ce chemin de foi et le baptême est le signe que vous êtes en route et que vous progressez vers un avenir que nous allons essayer de rendre le plus large qui soit. Alors, nous allons faire comme dans l'Évangile, les premiers seront les derniers, et donc nous allons commencer par celle qui est née en dernier. Adélaïde, et je vous invite parrains, marraines et parents à me rejoindre autour de ce baptistère. Oui, entourez bien Adélaïde. Voilà, en demandant le baptême pour Adélaïde, vous avez souhaité qu'elle bénéficie du signe de cette grâce, de cet amour inconditionnel. Adélaïde, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Adélaïde, l'Éternel tourne son visage vers toi et il fait briller sa lumière sur toute ton existence. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, dit l'Éternel, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée car je t'aime d'un amour éternel. Nous avons parlé de chemin, nous avons parlé de progression dans la vie. Le baptême n'est certainement pas le point final de sa vie spirituelle. Et les engagements que vous allez prendre maintenant, ces mots que vous allez prononcer, sont précisément destinés à dire un peu quel est cet avenir que vous espérez pour votre enfant. Et je vous invite maintenant à prononcer ces mots qui lui ouvrent la vie.
Nous souhaitons élever notre fille, Adélaïde, Esther, Elisabeth. Nous souhaitons la nourrir de mots, de saveurs, de climats, de perspectives. Nous souhaitons lui transmettre le goût de l'autre et de l'ailleurs, de l'application et du bonheur, de l'ancien et du nouveau. Nous souhaitons lui offrir des repères et des inspirations, des livres et des souvenirs, une famille et des aspirations, une histoire et des émotions. Nous espérons élever notre fille, l'éveiller à une spiritualité, à la foi et au doute, à l'esprit et au cœur, à la raison et à Dieu. Nous espérons voir Adélaïde devenir juste, courageuse, fantaisiste, attentive, ou tout ce qu'elle voudra en conscience. Nous espérons que ses marraines et parrains, cette communauté, ce lieu et Dieu nous seconderont dans cela.
Frères et sœurs, voici Adélaïde. Elle est ici chez elle. Alors, nous sommes une paroisse bien trop libérale pour dire que quelques contraintes que ce soit la retiendront ici. Tu auras toute liberté pour occuper la place que tu veux. Mais vous, vous êtes sa famille spirituelle. Et cela signifie que ses parents, parrains et marraines pourront compter indéfectiblement sur le soutien de votre amitié, de votre prière. Et puis vous serez témoin de l'amour inconditionnel de Dieu en lui disant que sa place est à jamais marquée. Elle a l'air de se sentir bien chez elle aussi, ici. Je vous invite à reprendre place. Et je vais inviter Laurent, Ariane, Violette, parrain et marraine à me rejoindre. Voilà, cette alternance entre les deux familles, plutôt que de les maintenir groupées, n'est pas pour les séparer, mais pour dire à quel point le baptême est un acte qui donne une personnalité, c'est un acte singulier. Il n'y a pas deux baptêmes qui se ressemblent, même si tous s'inscrivent dans un même mouvement. En demandant le baptême pour Violette, vous avez donc souhaité qu'elle bénéficie, elle aussi, de ce signe, de cet amour inconditionnel, qu'elle bénéficie de ce signe qui exprime à quel point nous sommes enfants de Dieu, à quel point nous avons notre place dans la communauté chrétienne, dont chaque église n'est qu'un lieu particulier. Eh bien, Violette, je vais te proposer d'avancer tranquillement vers moi pour t'exprimer cela. Violette, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Violette, sache que l'Éternel a tellement aimé ce monde qu'il lui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Violette, de même que pour Adélaïde, il faut bien que tu réalises que ce baptême n'est pas l'achèvement, le terminus, pour prendre un langage des transports en commun, de ta vie spirituelle. Il s'agit au contraire d'une étape sur le chemin de ta vie et tes parents maintenant vont s'adresser à toi notamment pour te dire un peu quelle est leur espérance et te dire un peu la part qu'ils entendent prendre dans ton éveil.
Violette, tiens, regarde-moi. Non, regarde-nous, regarde-nous. Violette, nous avons souhaité que tu sois aujourd'hui baptisée du haut de tes 5 ans. Ah, tu es encore plus haute. Et nous voudrions que tu nous écoutes devant tous t'expliquer pourquoi.
Ton histoire est une histoire originale. Tu as des ancêtres protestants via ta maman et arméniens via ton papa. Savoir d'où on vient, c'est important pour bien comprendre son point de départ, mais aussi pour savoir tracer son propre chemin. Ces deux minorités chrétiennes, les protestants et les arméniens, ont su résister pendant de longues périodes de l'histoire et sont toujours là. Bien vivantes. Elles ont trouvé une partie de leur énergie dans la Bible. Pas toutes, certains de leurs mobiles ont peut-être été seulement politiques parfois. Mais la Bible est un livre que nous souhaitons que tu côtoies, par respect pour tes anciens, mais pas seulement, aussi pour que tu comprennes ce qu'elle a dit à nos civilisations et aux hommes depuis 3000 ans, et pour ce qu'elle a encore à nous dire à bien des moments de nos vies.
Quelque chose d'important, Violette, que nous souhaitons te voir faire, avec la vie, c'est d'y plonger. Avec énergie, avec passion, parce que cela est bien, on s'amuse, on se bat, on s'aime. Je sais qu'avec ta sœur, tes frères, tu le fais déjà pas mal. On te demande aussi dans la vie parfois de prendre du recul, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la réflexion, et tu auras parfois des choix difficiles à faire.
Être dans la vie à fond, Violette, et savoir être à côté aussi, ce n'est pas une position facile. Mais l'Église protestante, qui va assurer un peu de ton éducation, n'a pas peur de ce grand écart.
Pour grandir, pour réaliser de grandes et de petites choses, nous voudrions que tu saches que cela se fait à plusieurs. Nous sommes ici tous réunis. Cela te donne plus d'énergie pour grimper les montagnes, Tu le sais, toi qui aimes bien monter sur les épaules de tes frères. Et cela tient chaud quand parfois les temps deviennent un peu venteux, comme dans les montagnes des Cévennes où le vent souffle fort comme l'esprit. Comme le disait ton papy, qui aurait été bien heureux d'être avec nous. Pour tout cela, nos sociétés se construisent en communauté. La communauté protestante qui t'accueille aujourd'hui, et nous l'en remercions, est une belle communauté bien vivante. Elle a accompagné tes frères et sœurs à l'école biblique, au catéchisme, au scout. Elle a aussi accompagné tes parents dans des moments faciles et d'autres plus difficiles. Et elle va t'accompagner de la même façon au début de ton chemin dans la vie.
Plus tard, Violette, ce sera toi qui devras accompagner les autres. Nous souhaitons que tu n'oublies pas d'apporter une part de ton temps et de ton énergie aux hommes et aux communautés qui font vivre nos sociétés.
Oui, je souhaite aussi remercier Anne-Sophie, qui a accepté d'être ta marraine, et Valentin, d'être ton parrain. Et merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui pour fêter le baptême de Violette.
Voilà, chère communauté, notre Violette, elle est ici chez elle. Toi aussi, Violette, sache bien que ta place est à jamais marquée et que ces gens que tu vois constituent aussi ta famille, que tu peux compter sur ces personnes pour grandir, pour pétiller, pour faire fonctionner ton intelligence et pour donner du cœur à l'ouvrage. Voilà, je vous invite également à regagner votre place et nous allons nous unir dans la prière pour rendre grâce pour ces deux jeunes filles. Oui, Dieu notre Père, nous te disons notre joie, notre reconnaissance pour Adélaïde et pour Violette qui viennent de recevoir le signe de ta grâce. Te prions pour elles, bien sûr, mais aussi pour leur famille et pour nous-mêmes qui avons une responsabilité à leur égard. Donne à leurs parents et à tous ceux qui auront à en prendre soin de leur révéler ton amour et de les préparer à te suivre un jour dans la reconnaissance et dans la joie. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, je vais vous lire les versets 7 à 16 de l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. Jésus dit encore à ceux qui étaient autour de lui, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en surabondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Frères et sœurs, pour lier ce texte avec ces deux baptêmes, je vous propose de vous lever pour chanter le cantique 204, qui est sinon un classique, du moins un cantique assez bien approprié. Nous chanterons les deux strophes de ce cantique 204. Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, celui qui retentit à travers ces mots que nous avons entendus, à travers les expériences que nous pouvons faire. Fais-nous entendre cet évangile sous une autre lumière, de manière à ce que jamais le passé ne nous enferme dans des interprétations toutes faites, mais que par ton esprit nous soyons prêts à répondre à ton appel, à la manière de véritables enfants d'Abraham. Chers frères et sœurs, nous venons donc de dire à ces deux jeunes pousses qu'elles font partie du troupeau. Le baptême atteste qu'elles ont leur place en compagnie des autres brebis, que nous sommes ici et là, une place unique, chacun étant connu personnellement. Alors, comme nous l'avons rappelé, le baptême n'est pas le point final de leur histoire, une étape sur le chemin de leur vie. Et la question est de savoir, outre ce que les parents ont dit, quel sera un peu leur avenir ? Et quel est l'avenir de celles et ceux qui constituent ce petit troupeau ? Eh bien, l'avenir que Jésus suggère à travers cet enseignement contenu dans l'Évangile selon Jean tient en trois points. Une menace, un risque et une promesse quand même. La première chose, la menace, c'est le vol. La première menace qui nous guette chacun, c'est d'être dépossédé d'une partie de soi, voire dépossédé de sa vie entière. Et ce qui est intéressant, c'est que cela est dit à une communauté de croyants, que cela vaut aussi pour une communauté de baptisés, parce que le baptême ne protège pas des agressions possibles. Même baptisés dans les règles de l'art, nous restons exposés à toutes sortes de menaces. Le baptême ne constitue pas un rituel qu'il suffirait de traverser pour être exonéré de toute difficulté dans la vie. Voler, égorger, détruire. Cette liste de menaces ne devrait pas nous orienter exclusivement vers le risque d'être pris en otage, d'être égorgé au coin de la rue ou de devenir la victime d'un attentat. Ceux qui sont venus avant Jésus n'avaient joué ni du couteau ni de l'explosif et pourtant Jésus les accuse d'avoir volé, égorgé ou détruit les brebis. Certes, ces risques existent bien, nous le voyons trop souvent avec les actualités, mais Jésus fait référence à d'autres risques, d'autres menaces. Des menaces qui font référence à ce que le prophète Ézéchiel, au chapitre 34, disait au sujet des faux bergers. Ces faux bergers qui n'ont pas pris soin du troupeau. Et au fond, la menace concerne des aspects non matériels de notre vie. Pas nécessairement se faire voler son téléphone mobile, pas nécessairement se faire trancher la gorge, pas nécessairement voir toute notre vie détruite intégralement. Parce que ces voleurs peuvent être des personnes, mais aussi des institutions et en fait nous-mêmes. Prenons deux situations, deux exemples en quelque sorte. Et tout d'abord, commençons par les parents, puisqu'ils sont un peu au front sur cette question des baptêmes. Disons-le clairement, les parents peuvent voler la jeunesse de leur enfant. Chers enfants, soyez vigilants. Il y a une menace potentielle. Comment cela peut-il se passer ? Eh bien, c'est lorsque les parents privent leurs enfants de certains soins. Alors, bien sûr, la nourriture, l'hygiène. Dans ce cas-là, on voit bien à quel point les enfants sont privés. Mais il y a plus que cela. Il y a aussi les priver d'une éducation, les priver d'explications sur le monde, de rendre le monde plus intelligible, mais aussi les priver d'amour, ces points d'affection qui leur permettent de trouver de la confiance dans la vie. Les priver aussi de l'usage de la langue. Considérer que l'enfant n'est pas à même de profiter de l'état de notre langue et donc de lui livrer un vocabulaire pauvre qui nécessairement lui donnera une vision du réel appauvrie. Ça, c'est lorsque les parents sont en défaut de soins à l'égard de leurs enfants. Mais il y a aussi une autre menace qui vous guette, chers enfants, méfiez-vous. C'est lorsque vos parents projettent un peu trop précisément sur vous des projets qu'ils avaient à cœur dans leur jeunesse et qu'ils n'ont pas bien accomplis, et qu'ils souhaiteraient voir réalisés à travers vous. Et dans une certaine mesure, vous devenez les objets de leurs désirs, Mais plus que cela, l'objet de leur frustration est, dans ce cas, vous n'êtes plus qu'un objet. La société, je prends un deuxième exemple, la société peut être un redoutable voleur. Et cette fois, c'est à vous, les plus jeunes, que je m'adresse plus volontiers. En reprenant le propos de Hannah Arendt dans son étude sur la crise de la culture, elle écrivait ceci, c'est une citation, « La difficulté nouvelle avec la société de masse vient de ce que cette société est essentiellement une société de consommateurs, où le temps de loisir, quand les devoirs sont finis, ne sert plus à se perfectionner ou à acquérir une meilleure position sociale, mais à consommer de plus en plus et à se divertir de plus en plus. » Fin de citation. Pendant que nous consommons, nous ne grandissons pas. Et des fois, c'est nous-mêmes qui nous volons, voyez-vous. Parfois, nous nous mettons en situation de ne pas pouvoir nous épanouir parce que nous nous figeons dans une consommation qui ne nous ouvre plus l'esprit, qui ne nous rend plus curieux. Alors, pour faire face à ces menaces, il y a un risque. C'est le deuxième point de l'enseignement de Jésus, me semble-t-il. Et le risque est de faire preuve de sectarisme. En effet, pour se protéger des menaces, nous pourrions avoir l'idée de nous mettre en sécurité au sein d'une bergerie afin de nous isoler des risques. C'est un peu comme ce qu'on appelle les panic rooms, ces pièces qui sont de haute sécurité dans certaines villas. Comme ça, si jamais des cambrioleurs entrent, on se réfugie dans une pièce a priori imprenable. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans cette pièce imprenable, eh bien, on y est coincé. Et que l'espace de vie se réduit à une peau de chagrin. Dans l'histoire, des chrétiens considérant que le monde était le lieu du péché, monde pécheur, pas très fréquentable, eh bien, ils ont décidé de se couper du monde et de se retrancher dans une communauté fermée, comme l'avaient fait autrefois les Esséniens, dont il est question dans des époques contemporaines de Jésus. Le sectarisme, on en a une idée assez précise concernant le religieux, et on sait à quel point le religieux peut être capable de sectarisme, d'un esprit sectaire. Mais bien sûr, le sectarisme ne concerne pas exclusivement le domaine religieux. On peut se retrancher derrière une idéologie. Ça revient à considérer qu'il n'y a pas de vérité en dehors de sa logique, qu'il n'y a pas de vérité en dehors de sa grille de lecture. Mais on peut aussi décider de se créer une sorte de cocon, bien calfeutré, qui devient une sorte d'obsession. Et on peut devenir obsédé par des choses telles que les papillons, les mathématiques, les cartes Pokémon. Ce qui revient à se couper d'une certaine forme de réalité. Parce que ça occupe tout notre esprit, ça sature notre imaginaire. Le modèle de bergerie proposé par Jésus n'est pas un lieu dans lequel on vient s'enfermer. Ce n'est pas une sorte de panic room, une chambre en cas de crise majeure dans laquelle on viendrait se cloîtrer. Cette bergerie, vous l'avez entendu, a une porte. Alors c'est vrai que c'est une porte un peu particulière puisque Jésus dit qu'il est la porte. Mais c'est une bergerie avec une porte, avec une ouverture. Parce que la porte, elle ne sert pas simplement à fermer, à isoler de l'extérieur, sinon on ferait un mur plein. La porte, en fait, sert à sortir. Mieux que cela, la porte désigne la sortie. En quelque sorte, la porte est une invitation à la sortie. Et d'ailleurs, le mouvement préconisé par Jésus, explicitement, c'est d'entrer, de sortir et de trouver des pâturages. Les pâturages ne sont pas à l'intérieur de la bergerie. La nourriture est dehors. S'enfermer dans la bergerie serait donc assez dramatique, parce que ce serait une manière de se détruire de l'intérieur cette fois. La secte retient ses adeptes. Alors parfois, elle ouvre grand la porte, mais ce n'est qu'un leurre, une illusion, parce qu'elle a tellement ligoté les personnes par ailleurs que la porte ouverte ne sert qu'à sauver les apparences. Qu'est-ce qui permet de ligoter quelqu'un ? De lui faire croire que le salut est à l'intérieur exclusivement, et que s'il sort, il se fera hacher menu. C'est de lui faire croire que la vraie nourriture est à l'intérieur, et que dehors, ce n'est que désert et désolation. Quand on fait croire que dehors, il n'y a que loups, brigands et voleurs sans l'ombre d'un pâturage, on ment. Et on détruit l'existence des personnes qui sont captives de ces méthodes. Des méthodes qui consistent en général à couper les liens familiaux, ces derniers liens sur lesquels les gens pourraient s'appuyer pour ressortir à défaut de trouver la porte. Être retiré, être exfiltré. Le sectarisme, ce n'est pas simplement s'enfermer dans un lieu. Après tout, même si la porte du temple reste ouverte, nous pourrions très bien nous sentir coincés ici. Mais ce n'est pas simplement un lieu, le sectarisme. On peut être libre de ses mouvements, mais pas libre de ses pensées ou de ses choix. Nous avons connu des familles protestantes, pour revenir à notre petit monde parpaillot, mais j'ai dans l'idée que ça devait se faire aussi dans la tradition arménienne. Des familles protestantes qui refusaient que l'un des leurs épouse un membre qui ne soit pas de la communauté, donc que les protestants n'acceptent pas bien que l'un des leurs épouse un non-protestant, parce que c'était pactisé avec le diable. C'était le siècle dernier, mais c'est juste quelques dizaines d'années. Hein. Dans un autre registre, pour montrer à quel point ce n'est pas simplement sur les lieux que s'appuie le sectarisme, mais aussi sur les idées, sur les institutions, nous connaissons des disciplines de parti qui imposent à des hommes politiques de suivre la ligne du parti en votant des lois qu'ils estiment pourtant mauvaises. Mais la discipline du parti l'emporte. La foule anonyme l'emporte sur l'individu avec sa conscience, avec sa réflexion éthique, avec ses convictions. Bref, le sectarisme qui pourrait être une réponse aux menaces qui s'exercent sur nous, est en fait tout aussi pire que ces menaces, peut-être même pire parce qu'elles sont plus sournoises, parce que le sectarisme revient à s'enfermer dans une posture qui nous prive de nos libertés fondamentales, soit le mouvement, soit la pensée, soit l'action, et puis plus que tout, la liberté d'être soi, d'être vraiment soi. Au fond, cela reviendrait à se couler dans un moule, pour éviter d'entendre toujours les mêmes réflexions dans la cour d'école sur nos vêtements qui ne sont pas de marque, eh bien très bien, on se met à acheter des vêtements de marque. Et du coup, on n'est que la marionnette des autres. On n'a plus de personnalité. On devient un anonyme parmi les autres. Alors, chers parents, rassurez-vous, il y a une menace, un risque, mais il y a aussi une promesse. Et on va finir avec cette promesse. Finissons sur cette touche positive. La promesse, c'est que nous ayons la vie, mais que ce ne soit pas simplement la vie qui vivote, que ce ne soit pas simplement une vie en termes biologiques, mais que ce soit une vie en abondance, en surabondance, dit le texte. Cela, ça se réalise d'abord en fréquentant le seuil, nous fait comprendre ce texte. Entrer, sortir, c'est déjà ne pas être captif d'un lieu, d'une idée, d'une situation. Ce n'est pas se ficher dans une posture. Fréquenter le seuil, c'est considérer qu'il n'y a pas un lieu en particulier où notre vie serait meilleure qu'ailleurs. Ou, pour le dire autrement, qu'il n'y a pas de lieu qui serait moins bon que d'autres pour nous. C'est aussi parce que le Christ affirme être sur ce seuil, passer par la case filtre lorsqu'on entre et lorsqu'on sort. Ce filtre, c'est laisser derrière nous ce qui ne correspond pas très bien à la prédication de Jésus, ce qui ne correspond pas très bien à l'idée qu'il se fait de ce qu'est la vie. Ça signifie laisser derrière nous ce qui réduit notre réalité, ce qui ne nous permet pas de faire valoir son programme, son évangile, l'amour du prochain, une existence reliée, où il n'y a plus de marginaux, où on n'est pas obligé de vivre selon la rumeur, mais où on peut être soi-même véritablement. C'est une manière de dire que lorsqu'on se présente dans cette bergerie ou qu'on en sort et que l'on passe par la case Christ, c'est-à-dire par la case Dieu présent et possiblement actif dans notre vie, eh bien notre particularisme, ce que nous sommes, un petit bout de grain de sable dans l'univers, eh bien ce petit chose se place face à l'universel, prend une autre dimension, se projette sur un écran plus grand, ce qui permet de mieux distinguer les détails et de mieux faire valoir nos talents. Je vais y revenir. Intéressons-nous à ce terme qui est sous-jacent à cette surabondance. Le terme grec, c'est périssos. Ça pourrait nous faire penser au mot périr. Mais en fait, ça vient du joli verbe périssène qui signifie être plus, déborder, surabonder. Cela signifie que nous ne devrions pas penser la vie sur un mode achevé, définitif, que nous ne devrions pas parler de l'homme idéal comme d'un homme accompli, mais plutôt comme d'un homme inaccompli, inachevé, infinitif. Surabonder, découvrir qu'il y a plus à vivre que ce qu'on imaginait, découvrir qu'il y a plus à ressentir que ce qu'on espérait, être capable de rêver à nouveau frais, être capable de repenser la vie, être capable de l'envisager sous un nouveau jour, une nouvelle lumière. La surabondance, c'est le fait de donner une autre dimension à notre réalité. C'est lorsque nous allons au collège, au lycée, comme ces femmes qui allaient vers le tombeau pour accomplir leurs devoirs, faire ce qu'elles avaient à faire, sans plus, sans enthousiasme, et qu'elles découvrent que le tombeau est vide, vide de ce qu'elles imaginaient, que le collégien, que le lycéen découvre que ces préjugés qu'il avait sur le professeur, sur l'enseignement, eh bien que cela ne tient pas au regard de ce qu'il découvre vraiment, au regard de ce qui est vraiment proposé. Il y a d'un seul coup une rencontre et de l'enthousiasme. Et ça accroche. Et ça accroche à tel point qu'on ne se contente plus de faire les devoirs qui nous sont donnés, mais qu'on en fait plus. On se passionne pour la matière. On peut se passionner de la même matière pour la vie. Découvrir que la vie, ce n'est pas simplement métro, boulot, dodo, et que nous pouvons être acteurs. Non pas subir un quotidien, mais le réinvestir, le charger de sens et l'aimer. L'aimer. La surabondance, Jean Calvin la relie à la question du métier. Pour faire du métier, non pas simplement notre gagne-pain, mais une vocation. C'est dans cette perspective que Martin Luther King va écrire que celui qui est appelé à être balayeur doit balayer comme Michel-Ange peignait, comme Beethoven composait, comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront pour dire « Et si vécut un grand balayeur qui fit bien son travail ?» Voilà la surabondance. Ce n'est pas une thèse du patronat pour essayer de donner un peu de baume au cœur des pauvres salariés exploités. C'est l'idée que là où nous sommes, avec nos moyens, avec nos talents, avec ce que nous sommes appelés à faire, il y a de quoi réenchanter notre vie. lui donner un caractère autrement plus universel que ce qui est donné à voir dans la pure littéralité. La vocation et la surabondance, ce n'est pas une histoire de coercition. Souvent, les jeunes se sentent un peu coincés par les parents en termes de « il faut, tu dois », c'est une obligation. On a tous une autre bague dans la famille, alors toi aussi, tu dois le faire. Il ne s'agit pas de forcer les personnes à faire mieux au nom d'une logique de croissance qui serait une forme de sectarisme idéologique. Il s'agit d'affirmer que nous avons chacun des talents à faire valoir et que lorsque nous nous tenons devant l'Éternel, lorsque nous passons le seuil où se tient le Christ, c'est-à-dire une foi crédible, une promesse divine qui se concrétise, qui se réalise, non pas des paroles en l'air, mais du tangible à hauteur de l'universel et de l'absolu. Eh bien, à chaque fois que nous tenons compte qu'il peut y avoir un peu plus d'absolu dans notre vie, nous découvrons que nous avons les capacités d'avoir une vie remarquable. Et remarquable, c'est une autre façon de traduire justement le grec périssos. La surabondance, c'est aussi ce que nous découvrons là ce matin, par exemple, la mise en relation avec d'autres que nous-mêmes, avec des gens qui ne sont pas nos semblables au sens strict du terme, avec d'autres brebis, inattendues, inespérées. La dynamique divine nous met en relation avec l'inespéré. D'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, mais qui vont quand même constituer troupeau avec nous. La dynamique divine, c'est de nous mettre en contact avec un au-delà de l'espérance. Ces autres brebis sont porteuses d'une autre histoire. Et nous voyons que deux traditions, deux histoires qui se rencontrent ne sont pas forcément dans une logique d'affrontement. Il peut y avoir un compagnonnage. On peut conjuguer nos talents, conjuguer nos racines, conjuguer nos histoires pour augmenter notre réalité, pour qu'il y ait quelque chose qui surabonde. Deux cultures, deux vécus, deux singularités qui se croisent et forment quelque chose de plus grand, de plus épanoui, de plus large, de plus intense, de plus beau, qui nous fait découvrir des pans de la vie que nous ne soupçonnions pas jusque-là. Nous, on la gerbe avec l'histoire des parents. Je vais continuer à vous défendre un petit peu, non pas contre les enfants, mais pour les enfants. Sachant que le bien que je le fais aussi un peu à moi. Les parents peuvent un peu exaspérer parfois, agacer. Eh bien, c'est une mauvaise raison de penser que notre vision des choses est juste. D'un point de vue théologique, l'ambition et l'exigence que les parents ont pour leurs enfants quand il ne s'agit pas de projeter à la lettre leur frustration, l'ambition et l'exigence que les parents ont pour leur enfant peut devenir une figure de l'ultime. Une figure divine qui s'agit de susciter du désir, donner le goût de l'au-delà en termes de qualité de vie, en termes de qualité de réalisation, en termes de qualité de rapport au monde, non pas en contraignant à coup de « il faut que tu fasses aussi bien que tes parents », mais bien en termes de « tu peux ». Les parents peuvent être figures divines en ce sens qu'ils jouent leur rôle de révélateur. Oui, tu es capable de plus que ce que tu dis. Tu es capable de certains accomplissements que tu ne soupçonnes pas encore. Parce que tu es plus que ce que tu es. Tu es plus que tes paroles, que tes actes, que tes réactions, que tes bouderies, que tes moqueries, que tes mauvaises notes, que tes fautes. C'est l'usage que Jean Calvin fait de la loi également. La loi, ce n'est pas ce qu'ils font faire si on ne veut pas être puni. La loi, c'est ce que Dieu nous rend capable de faire. Boire, manger, danser, entreprendre, supporter le PSG, chanter, aimer, râler, tout ce que vous voulez, pourvu que ce soit fait à hauteur de l'universel, que ce ne soit pas dans une petite vie rikiki, mais que ce soit un lieu d'épanouissement pour vous et pour les autres. Ce n'est pas un plaisir égoïste, c'est un plaisir qui accroît le bonheur commun. la vie surabondante dont il est question dans cet évangile, c'est tout sauf avoir peur des menaces. C'est tout sauf s'enfermer dans un sectarisme. C'est vivre au grand air. C'est aller et venir dans les bergeries pour pouvoir profiter plus sereinement des grands et verts pâturages qui sont au dehors. C'est savourer la vie, c'est se plonger dans la vie. C'est aimer la vie passionnément. C'est cela, la grâce que Dieu nous fait. Amen. Chers brebis que nous sommes, nous allons pouvoir surabonder dans notre qualité vocale avec le chant « À toi la gloire », plein poumon, pleine corde vocale, pas de pitié pour l'organiste. Nous chanterons évidemment les trois strophes. pouvons prendre place pour partager quelques informations dans l'agenda. Vous dire qu'après ce culte, un repas paroissial est préparé pour ceux qui peuvent rester aux 4 rue de l'Oratoire, à la maison presbytérale, salle mono, deuxième étage. Si vous ne vous étiez pas inscrit, soyez quand même les bienvenus. Demain lundi, grec biblique pour les progressants, c'est à 19h30, les activités sont en face. À 20h30, l'approfondissement théologique qui est consacré au XIIIe siècle de notre ère. Mercredi, c'est le grec biblique pour les confirmés à 16h. Et le soir à 20h, à Saint-Eustache, le début de la lecture biblique œcuménique consacrée à la foi dans tous ses états. Et là, ce sera à travers des textes dans le livre de la Genèse avec Abraham, Sarah et Isaac, Genèse 12 et Genèse 22, tout particulièrement avec Jérôme Prigent et Marc Pernaud. Jeudi, le chœur répète à 19h30. Samedi, notre organiste Jean-Dominique Pasquier donne une formation pour les organistes à 9h, ici même au Temple. Et dimanche, le culte sera présidé par le pasteur Jean-Pierre Rive. Je vous donne également quelques informations concernant la vente de l'entraide qui se tient comme d'habitude le premier week-end de décembre. Avant cela, vous pouvez confier les objets, les vêtements que vous voulez mettre à la vente. Vous les donner pour qu'ils soient vendus au profit de l'entraide. Les permanences se feront les samedis 17 et 24 novembre de 14h30 à 17h30 et les dimanches 18 et 25 novembre de 10h à midi. Voilà. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Ne prenez pas cela comme un risque ou comme une menace. On ne vient pas voler votre argent. Mais faites circuler l'argent, c'est ce qui permet une surabondance de la vie. Nous nous unissons dans la prière. Éternel, certains de ta fidélité, nous te présentons une partie de ton Église, cette communauté de l'Oratoire qui en est pour nous le visage immédiat. Nous portons dans notre prière Adélaïde et Violette, leur famille, de manière à ce que tu les gardes à travers nous dans la joie de ce jour. Et notre prière veut abonder bien au-delà de notre petit cercle, de notre petite bergerie, de nos petits intérêts, aussi beaux soient-ils. Et nous voulons te prier pour tous les enfants du monde. de prier pour ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent de l'absurde, ceux qui souffrent de la méchanceté des hommes, ceux qui souffrent d'être meurtris par la haine ou blessés dans les guerres, ceux qui souffrent de ne pas pouvoir être enfants. Nous pensons à ces enfants qui ne sont ni désirés ni aimés. Pensons à ces orphelins dont les rêves sont brisés. Aide-nous à veiller sur les enfants, tous les enfants du monde. Aide-nous à les faire grandir en grâce, en sagesse, et que cette grâce et cette sagesse soient véritablement surabondantes. Quant à nous, garde-nous dans l'esprit d'enfance, cet esprit d'humilité, de curiosité, qui nous permet d'entrer dans ton règne. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons ensemble en nous levant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons avec l'assurance que nous sommes accompagnés par cet appel à la vie tout au long de notre semaine. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.